Les apprentis du bien nourri. Bonjour à tous, bienvenue à Châtellerault, dans notre moulin du bien nourri. Aujourd'hui, le paradoxe du musicien. Ce titre, bien sûr, rappelle celui de Diderot, Paradoxe sur le comédien. De quoi s'agit-il ? Lorsque le comédien est à l'œuvre, vit-il vraiment l'émotion qu'il joue ? Lorsque le musicien exprime un sentiment, l'éprouve-t-il vraiment au fond de son cœur ? Ou a-t-il besoin d'une certaine distance pour créer l'illusion de ce sentiment ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, jusqu'à 13h40, dans Les Apprentis du Bien Nourri, sur France Musique. Alors, pour rappeler à soi un sentiment, on ne peut pas faire l'économie de la technique d'identification. On s'identifie à une situation et on réagit naturellement. Et cette réaction, elle amène le sentiment. Mais évidemment, pour créer ce processus, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser la distanciation. Alors, tout le problème est là. Le musicien est à la fois le marionnettiste et la marionnette. Maintenant, nous cherchons avec Lucie comment donner plus d'intensité dans le discours. Alors, elle nous joue un concerto de Goltermann.
De penser plus à ce qu'on faisait hier soir dans le cours collectif, de mettre plus d'intensité dans le discours.
Ouais.
Quand tu fais... Hey. Hein, d'aller vraiment dans l'intensité extrême de ce que tu dis, tout en vérifiant que le corps reste libre. Que c'est pas dans le corps que tu mets cette intensité.
Ouais.
Vas-y, direct là-dessus. Va pas.
Là, je suis dans le corps, en fait.
Ouais. Mais je te reprocherais ce que je reprochais à Raphaël ce matin, le vibrato lambda. Comme il disait, le vibrato de base. Ouais. C'est le vibrato qui n'exprime rien, le truc qui... Ça vibre, oui, ça vibre. Alors que le vibrato, ça dit quelque chose. Ça n'est rien en soi. C'est ce que j'entends qui compte. Ouais. Et encore là, tu vois, je place trop dans le corps encore. Voilà. Là, la même intensité en cherchant la détente. Oui, parce que aussi quand tu vibres, tu as les autres doigts qui partent là tout droit et du coup ça décentre ta main. Ça fait comme ça. Rassemble plutôt les doigts autour de celui qui vibre. Hein. Plus près. Pas ça justement, pas ça. Mais reste près de ton doigt. Tu peux rester avec les doigts, les autres doigts derrière. Ouais. Voilà. Ce sera plus centré, voilà. Allez, intensité dramatique. Attention. Appoggiature, résolution, jamais accent. Jamais. Quel que soit le style.
Ouais.
attention à la baguette, au bruit de la baguette. Alors tous les crins. Non. Parom, parom. Hop, pétard. C'est pas avec la, les violoncelles de l'orchestre. Voilà. Et fais gaffe quand tu fais une harmonique. De pas tout lâcher. C'est pas parce que tu lâches la main gauche que tu dois lâcher l'archer. L'archer, l'archer. Au sommet, il faut que tu te détendes. Ce qui est important, c'est d'initier la chose, ensuite laisse-la faire, laisse-la te dépasser, ouais. Te déborder. Et puis... il faut que ce soit beaucoup plus long, plus large. Plus, voilà. Quand tu gravis une montagne, ah, c'est dur, hein, tu arrives au bout, tu ne redescends pas tout de suite. Un peu, tu regardes le paysage, tu en profites un petit peu. Quoi. Bon, allez, on descend. Pour une journée de marche. La sauce la dos sur le domine. Maintenant, soigne le son quand tu arrives là-haut. Et alors, surtout, il faut énormément de tension au moment où, où ça démarre, où la musique, elle, n'est pas encore complètement en tension. Et après, tu relâches. Au fur et à mesure que la tension musicale augmente. Hein? Tends ce qui n'est pas tendu en musique et relâche-toi quand tu arrives à l'intensité musicale. De toute façon, l'intensité musicale, elle est là malgré toi. C'est les harmonies, c'est l'arrivée au sommet. Et alors là, tu peux complètement relâcher le corps et ça va sonner juste. Donc au début de ta montée, la sol si la do si ré do mi, la sol si la do si ré do mi. Là il y a une tension mi, ré fa mi sol fa la sol si la. Et là tu vas libérer complètement le corps et la tension musicale va te dépasser. Il faut que tu la laisses te dépasser. Hein? Donc tu inities la chose. C'est toi qui remontes la manivelle pour qu'il y ait l'énergie possible. De cette montée. Et ensuite, tu laisses faire. Lâche, lâche, lâche. Voilà. Très, très bien. Et maintenant, ton si part un peu... ti, ra, 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 ti, ya, ra, ra, di, 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 ti. Tu mets trop d'archets dessus et du coup, le son n'est pas assez intense. Il est un peu vide. Ti, ti, il y a trop d'air. Ti, ta, ra, ra, reste dans l'intensité du son. C'est pas fini. Lâche, lâche, lâche. Stop. Voilà. Là, t'es vraiment t'es au point où la musique est très intense. Et toi, en revanche, il faut vraiment que tu lâches le corps, que tu lâches le corps. Laisse faire. Mmh. Vas-y. Pareil, la montée. Ah. Non, depuis si, ça va, ça, mi, ré, mi, si, si. Non, c'est pas dit assez intensément. Ti ta ra ra ti re ri ti ra ri ta ra ram. Et tout en le disant intensément comme ça, le corps est libre. Non. Tu perds de l'intensité dans le discours dès le sol fa sol. C'était très beau ton ti et puis tu fais sol fa sol. Ti ta ra ra ti re ri ti ra ri. Mais là quoi ?
Plus d'un chant intérieur en fait.
Et non. Et non, et c'est ce champ intérieur qui est intense, et c'est toi qui le fais intense. Hein, on est bien d'accord, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit.
Ouais.
Mais tu es aussi la marionnette, qui, elle, reste libre.
Ouais.
Les articulations de la marionnette, qu'elle soit en train d'exprimer la colère, la tristesse, quelque chose de très banal, les articulations, elles sont libres pareil. C'est le marionnettiste qui est dans l'intensité. Attention le bois de l'archer. Attention le bois de l'archer. Oui, tu vois. Voilà, le problème c'est quand je te dis attention le bois de l'archer, hop, tu penses au bois de l'archer, puis tu reviens pas dans le discours. Il faut, on est sans arrêt en train de, évidemment, de faire face à des problèmes techniques. Et ça, ce sont des alertes, c'est ce qui se passe en coulisses. Si tu veux. C'est, on ne doit pas le voir, nous,
ouais,
dans le public. Hein? C'est en coulisses. Si tu allais à un spectacle et que tu vois tout ce qui se passe en coulisses, imagine, ils ont oublié de mettre les pendrillons devant le cadre de scène. Et alors, tu vois le personnage qui sort de scène et puis qui fait comme ça, qui prend sa serviette, qui s'essuie, qui voit. Ah, tu ne crois plus du tout. C'est plus du tout le personnage en question. Et puis, tu vois, pendant une scène d'amour extraordinaire, le pompier de service derrière qui fait les 100 pas. Et puis, tu vois... Le régisseur plateau qui court derrière pour aller chercher le décor de la scène suivante, bah, t'es plus dans le spectacle, hein, t'y crois plus. Tu n'es plus dans l'émotion de ta scène d'amour. Et bien bah, là, c'est pareil. Quand toi, tu joues... Nous, c'est tout ce qu'on doit voir. Mais toi, en même temps, tu dois penser à bien mettre ton archer là, comme ça, pour pas qu'on entende le bruit du bois, sinon ça va nous gêner. Que tu fasses attention à ce que ton corps soit libre, parce que sinon, l'émotion va pas passer. Etc, etc, tout ce qu'il y a à faire, tirer droit l'archer, faire attention au démanché, au changement de corde, tout ce qu'il y a à faire, il y a énormément de choses à faire. Mais ça, on ne doit pas le voir, nous.
Ouais.
Dès que tu sors de ton champ intérieur, pour ces questions-là, il faut que tu t'habitues à y revenir tout de suite.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Et en fait, je ne sais même pas si c'est une question d'y revenir. C'est-à-dire que le champ intérieur, il doit être constant. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je peux très bien faire deux choses en même temps. Quand je traverse la rue pour aller à la boulangerie, par exemple, je ne pense pas que à la boulangerie, je peux aussi regarder s'il y a des voitures qui passent pour ne pas me faire écraser.
Oui.
Tu te souviens quand on faisait les marionnettes pour Don Quichotte, hein? Alors, tu es là, tu es dans l'émotion du truc, tu es en train de faire... Et puis, tout d'un coup, il y a les fils qui sont pris dans la moustache de Don Quichotte. Ça, ben, tu restes en train de faire vivre ta marionnette, mais en même temps, tu enlèves le fil de la moustache de Don Quichotte parce que tu sais que ça va te gêner pour faire le mouvement qu'il faut que tu fasses.
Ouais.
Hein. Donc, il y a aussi toujours cette distance, cette distanciation, cette chose qui nécessite, en effet, de garder le contrôle, mais en même temps, de retourner tout de suite dans le discours. Donc,
ouais.
Qu'est-ce que je raconte? Alors le meilleur moyen que j'ai trouvé pour essayer de faire comprendre ce paradoxe, c'était un moyen détourné, bien sûr. C'est ce qui marche le mieux, les moyens détournés. Alors, à force de leur dire « on est à la fois le marionnettiste et la marionnette », j'ai fini par décider qu'il fallait impérativement expérimenter la manipulation des marionnettes pour sentir cette dissociation entre ce qui est exprimé et celui qui exprime. C'était une expérience très marquante, en fait. Écoutez ce que disent les apprentis du Bien Nourri quand on leur demande quel a été leur meilleur souvenir de stage.
C'était l'été dernier, lors d'un stage de 10 jours, où en fait on avait monté Don Quichotte de Strauss en faisant un spectacle de marionnettes. C'était un très beau moment. Mais en fait, le but de l'exercice... C'était en fait de prendre la marionnette comme le corps, c'est-à-dire qui est complètement disponible, et C'est le marionnettiste qui exprime quelque chose et qui doit forcément exprimer quelque chose, comme au violoncelle, en fait. C'était ça le parallèle entre le corps détendu et le discours musical. Une marionnette, pour la faire vivante, on est obligé d'employer toute son imagination, parce que là, donc, en fait, il n'y avait pas de parole, donc c'était juste la musique. Donc on devait s'inventer toute une histoire comme on doit faire en musique, même si c'est moins évident, en fait. Et donc après, ça fait travailler l'imagination et ça aide après pour la suite.
C'est peut-être le meilleur stage, vraiment, enfin, qui reste gravé dans la mémoire, en tout cas. Et c'est exactement, en fait, comme la musique. Enfin, c'est le même principe, c'est passer une émotion à travers un instrument. La marionnette était l'instrument.
Mon meilleur souvenir de stage. Je crois que c'est l'année dernière, le stage de l'année dernière. En fait, Jérôme avait fait venir un marionnettiste, Francis Joly, et on avait monté Don Quichotte avec les marionnettes, et c'était vraiment une magie. C'était un moment très important, quoi. On était sous le charme. Au début, ça commençait pas. C'était pas évident, en fait, au début. Parce que Francis, il est arrivé et... bon, ben c'est sûr, nous, on était dans le stage, Châtellerault, lui est arrivé, il fallait qu'il se débrouille. Et finalement, mais on a monté un truc invraisemblable, quoi. C'était magnifique. Hein. Une poésie. C'était sublime.
On s'est donc mis en tête de monter un spectacle de marionnettes sur le Don Quichotte de Strauss. Richard Strauss. Ça a été l'occasion de récapituler, de synthétiser, de concrétiser l'ensemble du travail qu'on fait sur une œuvre pour l'interpréter. C'est-à-dire d'abord l'écoute de l'œuvre. On a passé du temps tous ensemble dans le salon assis à écouter l'œuvre et à s'interroger sur ce qu'elle évoquait, sur ce qu'elle exprime, ce qui n'est pas difficile d'ailleurs dans cette œuvre, puisque on s'est aidé du roman de Cervantes, on en a lu des passages, on a lu d'ailleurs les passages dont Richard Strauss s'inspire dans son poème symphonique. Et puis, il y a la partie analytique du travail. Il y a la mise en contexte. Il s'agit de savoir comment Strauss a écrit cette œuvre, replacer l'œuvre dans son contexte historique, et puis rappeler quelles sont les œuvres que Strauss a écrites dans le même genre, les poèmes symphoniques. Analyser la forme, comprendre son style, sa manière d'écrire. Et puis, il y a eu ensuite la mise en pratique, donc avec ces marionnettes, tout le travail sur la manipulation, le fait de refaire chaque geste jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. C'était un moyen aussi de faire le parallèle entre cette marionnette et l'instrument. Et enfin, il y avait la question de la conception globale du spectacle, puisque... il s'agissait de faire un spectacle. Il fallait inventer la mise en scène de chaque variation, et simultanément ajuster les moindres détails, les moindres mouvements des marionnettes, les adapter au contexte général. Et ça, c'est aussi ce qu'on fait quand on travaille une œuvre à l'instrument. Alors bien sûr, pour tout ça, on s'est fait aider.
Je m'appelle Francis Joly, j'ai une compagnie de marionnettes en région parisienne. Moi, je travaille beaucoup avec la République tchèque. Pourquoi je travaille avec les Tchèques ? Parce que moi, j'ai fait mes études à Prague, à la chaire de marionnettes de Prague, il y a une trentaine d'années déjà. Voilà, le but, quand Jérôme Pernoud m'a appelé, c'était pour travailler sur Don Quichotte. Donc, il se trouvait que moi, j'avais monté Don Quichotte en 90. Donc, j'avais les marionnettes, le décor à disposition. Et ce sont des marionnettes à tringles. Une tringle, c'est une marionnette en bois sculptée avec une tringle métallique qui est vissée dans la tête. En haut, il y a un outil, l'outil pour faire marcher la marionnette qui s'appelle le contrôle. Et il y a quatre fils et ça suffit amplement pour manipuler la marionnette, pour lui insuffler la vie. Jérôme m'a dit, voilà, on a 4 jours et demi pour travailler sur la musique de Strauss, sur le Don Quichotte. Puis tout le monde s'est pris au jeu. Moi, j'étais... D'abord, les musiciens, ils m'ont épaté parce que ce sont des sacrés bosseurs. Je dois dire que nous, les comédiens, les marionnettistes à côté, on est un peu moins assidus au travail. Mais alors, ils m'ont épaté parce que l'après-midi ou le matin, ils répétaient leur instrument. Et moi, soit je travaillais 3, 4, 5 heures avec eux dans la journée. Et ensuite, ça se passait surtout la nuit. La marionnette, c'est un morceau de bois, c'est une sculpture au bout d'une tringle métallique. Et quand elle est bien maîtrisée, quand elle commence à se mouvoir, à nous raconter un texte, là, il n'y avait pas de texte, on devait caler. C'était un petit peu une chorégraphie sur la musique de Strauss avec ses marionnettes. En fait, la marionnette à tringle, c'est une manipulation assez primitive, très directe. C'est pas une marionnette gracieuse en plus. Et là, il fallait être calé en rythme avec le tempo de la musique. Et ça, c'était un petit peu la difficulté. Mais bon, eux, les musiciens, ils ont eu la musique tout de suite dans l'oreille. Donc ça, et la marionnette, elle a suivi après. En fait, ils ont répété leur gamme comme ils font avec leur instrument. Ils ont fait la même chose avec la marionnette. Ils ont travaillé, ils ont changé de main, ils ont marché, ils sont mis à genoux avec la marionnette, ils ont eu mal au bras, ils ont dit Francis, tu nous embêtes, la marionnette elle est lourde, ils ont eu mal au bras. Et puis voilà, tout ça s'est fait régulièrement. Toute l'énergie, elle vient du corps, un petit peu comme ils font avec leur instrument. Quand j'ai vu Jérôme, quand je le voyais derrière son violoncelle, après je l'ai vu derrière la marionnette, il mettait la même énergie, tout vient de là. Il faut ressentir les émotions quand la marionnette doit, quand elle doit respirer, le comédien doit respirer avec elle, quand il la fait marcher, il doit être attentif à chaque pas. Et quand ils sont derrière leur violoncelle, c'était la même chose et ils m'ont vraiment épaté. Il faut être très humble derrière sa marionnette. Le marionnettiste, il se met au service. Mais dès qu'on la pose et dès qu'on l'accroche, la marionnette, ça devient un objet inanimé.
Alors finalement, on a monté un castelet dans la chaufferie. Un castelet, c'est un petit théâtre miniature aux mesures des belles marionnettes que Francis Joly nous a apportées. Et on a mis donc sur ce castelet des décors de fortune. On a pioché dans diverses salles du moulin. C'était pas difficile d'ailleurs parce que chez Minouche c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On trouve tout ce qu'on veut. Et Minouche nous a d'ailleurs beaucoup aidé. Elle a beaucoup mis la main à la pâte. Elle a aussi manipulé des marionnettes. Et on a fait donc les décors, on a improvisé quelques lumières avec des projecteurs, avec des torches. Et ce spectacle a pu naître comme ça. Don Quichotte, Sancho arrive sur scène accompagné de Rocinante. Et Don Quichotte parle à Sancho, il lui montre ses paysages merveilleux. Il lui promet monts et merveilles, bien sûr, lui loue les beautés somptueuses de son archipel.
Thank you.
Voilà de quoi nourrir l'imagination artistique de nos apprentis. Voilà de quoi apporter à notre champ intérieur de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouveaux outils d'expression, bien sûr. Comment intensifier son champ intérieur? C'était là la question posée à Lucie tout à l'heure. Une des premières choses à faire, bien sûr, c'est l'imagination. Et il y a aussi le fait d'enrichir sa compréhension du langage, bien sûr, sa compréhension de l'harmonie, donc, puisqu'il s'agit du langage de la musique. Alors, l'harmonie, c'est une base grammaticale et sensible, indispensable à toute volonté d'expression. Maintenant, il y a des choses sur ton champ intérieur qu'il faut quand même améliorer.
Ouais.
Et ça, c'est du travail de sous-texte. Par rapport à « si, ça va, ça, mireille, si, ça va, ça ». Ça, c'est quoi comme accord?
C'est
une sixte. On a quelle tonalité? Ne réfléchis pas trop. Essaye de sentir quelle tonalité tu es.
En ré.
En ré. En ré quoi? Majeur ou mineur?
Mineur.
Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Pardon, j'ai pas entendu.
Mineur.
Mineur. D'accord, en ré mineur. Alors, il y a quoi la clé en ré mineur?
Un bémol.
Un bémol. Si t'avais quelques années de moins, je t'aurais dit, il y a combien de dièses en ré mineur? J'adore faire le piège. Donc, un bémol. Alors, ensuite, c'est quoi comme note, le bémol, quand il n'y en a qu'un?
Si.
C'est le si, d'accord. Donc, si bémol. C'est quoi les notes de l'accord? Sol, part de la basse. Si quoi? Si bémol, oui, si bémol. Ensuite. Si bémol.
Bémol.
Oui. Ensuite.
Ré,
mi. Mi quoi?
Mi bémol.
Oui. Sol, si bémol, mi bémol. Et bien comment ça se fait qu'il y a un mi bémol? Parce qu'on est en ré mineur, tu dis.
C'est
un accord de quoi?
Y a pas
Sol, si, mi, c'est quoi comme accord? Tu le chiffres comment?
Mais c'est
6. 6, ouais. Alors remets-le à l'état fondamental.
Mi, sol, si.
Chante-le. Mi.
Sol, si.
D'accord. Alors mi, sol, si. D'accord. Mi bémol, sol, si bémol. Ouais. Dis, habitue-toi à dire si c'est bémol ou dièse, parce que sinon
bémol,
on s'en sort pas.
Sol, si bémol.
Ah, d'accord. Alors. C'est quel degré en ré mineur ça?
Le deuxième
degré.
Ah oui.
Sauf que normalement, en fait, c'est un mi bécard normalement. Tu peux nous jouer mi sol si bémol?
Mi bécard.
Bah oui, j'ai pas dit bémol. Encore. Voilà. Et maintenant, avec le deuxième degré abaissé. Oui. Voilà. Et maintenant, avec à l'état de sixte. Alors, c'est quoi? La sixte napolitaine, la napolitane. Très bien. Deuxième degré à l'état de sixte, deuxième degré abaissé, d'accord? C'est la sixte napolitaine. Maintenant, évidemment, ça c'est l'analyse pour la retrouver, pour être sûr que c'est bien elle. Mais en fait, il faut que tu l'entendes.
Ouais.
Il faut que tu la reconnaisses. Il faut que tu arrives à reconnaître l'accord tel quel, tu le nommes. Tu vois, comme une cadence, par exemple. Si Karine te joue une cadence, tu vas la nommer. Tu ne vas pas réfléchir, vas-y, joue une cadence.
Cadence parfaite.
Ouais. Est-ce que tu as réfléchi?
Oui.
Ou tu l'as senti?
Non, je n'ai pas.
Ou les deux?
Un peu les deux. Mais plutôt, j'ai senti.
L'idée, c'est d'arriver à sentir d'abord et ensuite confirmer par l'analyse. Ah oui, en effet, dominante tonique à la basse, c'est sûr que c'est une cadence parfaite.
Ouais.
On y va. Autre chose, Karine?
Ouais.
disputé ou rompu. Pareil, t'as réfléchi ? Non. Ça te fait quelque chose ? Tout de suite, tu sais que c'est ça, que c'est, tu la reconnais. Une autre ?
Mais c'est pas évité aussi ?
Bah si. Ah bah alors, pourquoi tu doutes ? Parce que t'as senti que c'était évité, puis après tu dis, ah oui, mais alors, aussi, elle vient de le faire, donc c'est pas ça. Non, tu trouves que c'est évité, donc c'est évité. Après, tu vérifies par l'analyse.
Ouais.
Là, c'était bien une dominante, et puis si bémol, sixième degré, c'est cadence évitée. Ça doit être pareil pour les accords. Un accord parfait, par exemple, ça sonne un accord parfait. C'est pas évident d'ailleurs, c'est peut-être le moins évident. Parce qu'il est tellement parfait que avec cette quinte là, vas-y, c'est juste la quinte. Et puis avec la tierce maintenant, ça, il sonne très limpide. Alors qu'un accord de sixte, il va être beaucoup plus élégant. Ah, plus élégant. Il faut le reconnaître en soi que c'est un accord de sixte. Tu l'appelles comme ça. Hein? Un accord de septième de dominante, t'as pas besoin de réfléchir pour savoir que t'es sur une septième de dominante. Mmh. Ah, forcément, c'est une septième de dominante. On attend une résolution sur la tonique. Hein? Alors après, savoir si c'est un 7 plus un 6, 5 barré, un plus 6 ou un plus 4, c'est encore autre chose. Mais ça aussi, on peut le sentir, il faut pas l'analyser. Si, regarde. Là, tu sens que tu vas être sur une cadence parfaite, non ? Tu sens que c'est la dominante à la basse. Sol, do. Hein? Donc quand tu sens que ça va être une cadence parfaite, 7 plus, t'es sûr. Si tu sens que la... Alors maintenant, essaye de sentir ce que va faire la basse. Est-ce qu'elle va monter ou elle va descendre, là ? Elle va monter. Donc c'est un 6-5 barré. Forcément, parce que c'est la sensible à la basse. Si tu sens que la basse va monter, c'est un 6-5 barré. Mais il a une couleur très, très reconnaissable. Hein. Ensuite, si tu sens que la basse va descendre, tu sens bien encore. Tu sens bien qu'elle va descendre. Le fa, ça va pas faire fa, sol, c'est atroce. T'es d'accord? Fa, mi, la basse descend. Alors là, c'est un plus 4. Parce que c'est la septième de l'accord qui est à la basse. Et que la septième, elle descend toujours. Et alors celui-là ? Ré, Fa, Sol, Si.
Les deux.
Le Ré, il descend ou il monte ?
Il peut faire les deux.
Il peut faire les deux. Ré. Voilà. Ou alors ? Ouais, il peut faire les deux. Donc c'est un ?
Plus 6.
Plus 6. Donc, si tu sens que c'est une cadence parfaite, c'est un 7+. Si tu sens que la basse va monter, c'est un 6-5 barré. Si tu sens rien, c'est que c'est un plus 6. Et si tu sens qu'elle descend, c'est un plus 4. Voilà. Et si tu sens rien et que c'est un plus 4, bah, tu vas bosser.
Yeah.
On cherche. On cherche au Moulin du Bien Nourri. Tous ces apprentis musiciens sont des chercheurs, des assoiffés de connaissances pour la compréhension de cette langue mystérieuse qu'est la musique. Bien sûr, la route est longue et difficile. Elle demande du cœur et de la persévérance, presque comme un parcours initiatique. Mais assurément, quand on entend ce choral de Bach, on sait qu'il mène à la lumière. Équipe de réalisation, Hélène Daude, Laure Jung-Lancré, Benoît Gaspard et Julien Bourdet. N'oubliez pas que vous pouvez trouver un lien pour le blog du Moulin du Bien Nourri sur le site de France Musique. Un grand merci, plein de reconnaissance à Minouche et Hervé Sornik, ainsi qu'à celle qui fait l'orchestre, qui accompagne, qui donne et improvise la cadence, la philharmonieuse Karine Cello. Il est maintenant l'heure de retrouver notre cher Dominique Boutet. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 13h sur France Musique. Et d'ici là, amusez-vous bien.